Alors, dans les chants que nous avons chantés ce soir, on a surtout parlé de Jésus-Christ, hein, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est effectivement aussi parce que le thème de notre étude de ce soir, c'est la personne de Jésus-Christ. Nous sommes en train de voir dans cette étude des raisons pour lesquelles nous pouvons croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, et nous étions en train de voir différents événements historiques dans lesquels Dieu est intervenu dans l'histoire de l'humanité. Et pour moi, c'était un peu difficile parce que on sait que bon, Dieu se révèle de manière générale à l'humanité et son intervention dans l'histoire de l'humanité, c'est une hein, de ces révélations générales dont on parle. Et le fait que Jésus-Christ soit venu dans ce monde fait partie de cette catégorie-là, mais il est aussi dans la catégorie d'une révélation spéciale, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ est une personne complètement à part. Et c'est un peu de cela que l'on va voir ce soir. Et Dieu voulant, donc, dans la prochaine étude, nous verrons Jésus-Christ en tant que révélation spéciale. Pourquoi hein, Jésus, il est différent de, des autres. Hein, vous savez que pour certains, Jésus n'est qu'un prophète, par exemple. Et il est extrêmement différent de tous les prophètes qui ont existé. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il n'y a personne comme lui. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 18, justement, vous le savez que l'Évangile de Jean nous présente Jésus-Christ en tant que Dieu, n'est-ce pas? Et tout le chapitre 1er nous parle de la divinité de Jésus-Christ. Et le verset 18, je tenais à le partager, à le souligner par rapport à notre étude de ce soir, nous dit: personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. J'ai choisi ce verset parce que justement, nous sommes en train de parler de cette révélation de Dieu à l'humanité, et que Jésus-Christ, lorsque il est né, lorsqu'il a vécu parmi nous, et que il a accompli ce ministère si spécial en Israël, hein, il y a de cela 2000 ans, eh bien, son objectif était bien sûr de nous faire connaître Dieu, le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu amour et miséricordieux, gracieux. Et l'objectif hein, de la vie de Christ a représenté tout cela. Hein, parce que lorsqu'il a donné hein, sa vie sur la croix, il l'a fait justement par amour, mais aussi dans l'objectif eh bien, de nous faire bénéficier de la grâce de Dieu, afin que par la foi en Jésus-Christ, dans son œuvre, pas dans nos œuvres, mais dans son œuvre, eh bien, nous ayons la rédemption des péchés, nous soyons plus sous la condamnation du péché, et que ainsi, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, soit satisfaite. Mais la grande question, c'est: y a-t-il vraiment eu une autre personne dans l'histoire de l'humanité qui ait eu un impact plus grand que celui de Jésus? Et je crois que honnêtement, aujourd'hui encore, il n'y a personne qui a eu un tel impact. Jésus de Nazareth a clairement été la personne la plus historiquement importante dans le monde depuis l'aube de la civilisation jusqu'à nos jours. Jésus-Christ est une personne qui suscite des passions même parfois opposées, n'est-ce pas? De ceux qui aiment Jésus-Christ et vivent pour lui et le suivent en tant que disciple, comme ceux qui le rejettent et qui le haïssent, ou ceux même qui sont indifférents vis-à-vis de Jésus-Christ, il suscite quand même quelque chose. Et bien que Jésus soit né dans ce petit village de Bethléem, hein, au sud de Jérusalem, dans un royaume hein, qui était tout petit hein, dans cet immense empire romain à l'époque, le nom de Jésus, l'histoire de sa vie sont maintenant connus à travers le monde entier. Et donc, la vie de Jésus a eu un impact sans commune mesure et un impact qui est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Personne ne peut contester l'impact considérable que Jésus a eu sur l'histoire de l'humanité au cours des 2000 dernières années. Même selon les estimations hein, récentes, on sait que J'ai oublié exactement combien on est sur Terre maintenant, je crois qu'on est dans les 8 milliards et quelques, n'est-ce pas? Mais on sait qu'il y a environ 2,4, 2,5 milliards de personnes qui se disent, qui sont attachées au christianisme, qui sont attachées à la personne de Jésus-Christ et qui font partie d'une église du christianisme, l'une ou l'autre. Et on sait que bon, c'est difficile hein, d'estimer exactement hein, combien de personnes croient en Jésus et suivent ses enseignements, mais on voit que bah, 2 milliards et demi de personnes, ce n'est pas un petit chiffre. Hein, c'est encore une personne historique qui a encore aujourd'hui un impact considérable dans la vie de milliards de personnes, et à travers même ces personnes-là, d'autres personnes hein, qui bénéficient d'une manière ou d'une autre des bienfaits du christianisme. L'impact que Jésus a eu, il va au-delà hein, de ceux qui même poursuivent une forme de spiritualité. Hein, beaucoup de gens s'intéressent à Jésus bah, pour par rapport à l'aspect social des choses, c'est-à-dire ce qu'il a pu apporter comme bénéfice pour les gens, et donc même hein, les érudits laïcs dans divers domaines étudient régulièrement la vie de Jésus et ses enseignements. D'ailleurs, si vous on faisait une recherche hein, sur Google, quelqu'un a estimé qu'on obtient environ 665 milliards de résultats juste pour le nom Jésus. Hein, et donc c'est encore aujourd'hui un impact considérable que Jésus a sur notre monde. Une autre étude récente sur les résultats de recherche Internet à travers le monde, hein, c'est l'université Stony Brook qui fait ce classement et qui, pour eux, Jésus arrive en tête des recherches hein, sur Internet. Et cela montre encore une fois l'importance même que ce nom revêt encore aujourd'hui. Alors que oui, peut-être dans nos pays occidentaux, on est de plus en plus à rejeter la religion, à rejeter le christianisme et ses valeurs, etc. Mais on sait qu'à travers le monde, le nom de Jésus a encore un impact considérable. On pourrait parler aussi de l'impact hein, que Jésus a eu dans les divers domaines hein, de notre société, hein, que ce soit dans les arts, hein, la littérature, mais d'autres domaines, hein, la médecine, même dans les sciences, hein, le christianisme, à travers Jésus-Christ, le christianisme a fait bénéficier nos sociétés de grands avancements aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est considérable et qu'il nous faut également souligner. Ce que j'aimerais montrer, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que la vie de Jésus a d'abord eu un impact localisé hein, et a eu un impact mondial, un impact global par la suite. Et c'est vraiment intéressant d'étudier hein, l'histoire bah, déjà de la vie de Jésus-Christ, mais ensuite la suite. Hein, vous savez que moi j'aime beaucoup hein, le livre des Actes parce que c'est un livre qui est vivant, qui est historique et on est là avec les personnes là, dans les différentes situations hein, qu'ils ont vécues. Mais on voit aussi par leur ministère et par leur service pour le Seigneur comment l'évangile a pu toucher les cœurs de personnes à différents endroits, différentes villes, différents pays. Alors vous le savez, au début, les disciples de Jésus ne se comptaient que quelques disciples. Hein, ceux qui suivaient Jésus, ils n'étaient pas si nombreux que ça au départ. Mais à la fin de sa vie, hein, ce nombre était déjà passé à des milliers de personnes. C'était des foules qui se réunissaient pour entendre Jésus-Christ. Ce sont des foules hein, qui ont suivi ses enseignements. Alors bien sûr, hein, les 12 disciples hein, de Jésus, il y avait aussi des femmes éminentes qui sont mentionnées dans les évangiles, des hommes comme Nicodème, comme Joseph d'Arimathée, pour Zachée, hein, les personnes qui avaient été guéries hein, par le Seigneur Jésus-Christ. Qui ont suivi le Seigneur, hein, toutes ces foules qui se rassemblaient pour l'écouter prêcher, comme lors des miracles, hein, des multiplications, hein, des pains là pour la foule de 5 000 et des 4 000 et d'autres grandes foules, hein, qui sont mentionnées et dans lesquelles Jésus a eu un impact considérable. Il a vraiment bouleversé non seulement la société de son pays à l'époque, mais il a bouleversé le monde par la suite. Après la résurrection de Jésus, hein, les Écritures nous enseignent qu'il est apparu à plus de 500 disciples à la fois, et ensuite, hein, dans les années qui ont suivi, hein, qui ont suivi la Pentecôte, hein, que l'on voit dans Actes chapitre 1 et 2, on voit le nombre de disciples qui, boum, explose. Tellement que ça devient un gros problème pour les chefs religieux de l'époque, hein, et on voit en lisant le livre des Actes, hein, les différentes persécutions qu'il y a eu contre les chrétiens, contre l'Église de Jésus-Christ, à travers des hommes comme Saul de Tarse. Mais voilà, on estime que à l'époque, dans la région, hein, il y aurait eu à peu près 1 million d'habitants, et que c'est encore une estimation, mais on pense que quand même c'est plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes qui ont suivi Jésus-Christ, qui sont devenus des disciples de Christ, hein, représentant à peu près 5% de la population de l'époque. On le sait, ce nombre a augmenté de manière exponentielle par la suite. Hein, pour ceux qui ont étudié un petit peu l'histoire de l'Église à travers les siècles, on voit que l'évangile de Jésus-Christ a eu un impact à travers l'Empire romain, à travers le monde connu d'alors et même par la suite, hein, comme on le verra, l'évangile s'est propagé tout autour de ce monde. Mais on a eu donc une propagation fulgurante. C'est en l'an 100 après Jésus-Christ, on estime qu'il y avait des communautés chrétiennes dans plus de 40 régions différentes de l'Empire romain. Au IVe siècle, le christianisme s'était déjà répandu dans une grande partie du Moyen-Orient, de l'Asie mineure, de l'Afrique du Nord, de l'Europe du Sud et de l'Ouest. On a même des traces dans le royaume d'Arménie, hein, du christianisme qui avait même été adopté comme religion d'État en 301 après Jésus-Christ. On sait que en 313, c'est l'Empire romain, avec l'empereur Constantin, qui va promulguer l'édit de Milan et qui va légaliser le christianisme dans l'Empire romain, et que par la suite, hein, ça va devenir même la religion, hein, de l'Empire. En 380 après Jésus-Christ, hein, c'est l'empereur Théodose Ier qui va promulguer l'édit de Thessalonique et qui a fait vraiment du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. On le sait que avec cet empire romain et cette adoption du christianisme comme religion, on a eu toutes sortes de mouvements, on va dire, et de théologies différentes qui ont été suivies, hein, à travers l'empire. Et on n'est pas en train de dire que toutes les églises qui étaient là, hein, à cette époque-là, et l'église qui existait au moment de l'adoption du christianisme comme la religion de l'État, que toutes ces églises étaient des églises fidèles à Dieu. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est l'impact que ça a eu. Et à quelle vitesse, justement, eh bien, le christianisme s'est répandu. En un peu plus de 300 ans, Jésus était passé d'une relative obscurité, hein, une tout petit village en Israël, un tout petit pays dans l'Empire romain, mais voilà, de ces confins de l'Empire romain, de cet Empire romain qui était imprégné de paganisme, on arrive à une figure que, on va dire, quasiment l'ensemble de l'Empire suivait et adorait. Et j'ai bien mis ça, hein, entre guillemets, on le sait bien. Mais pour moi, l'objectif, c'est de montrer l'impact considérable en seulement 300 ans de ce que Jésus-Christ a apporté à ce monde. Et tout au long des siècles, les effets du christianisme peuvent être observés. Ce que je veux noter et souligner, c'est également son message d'amour, hein, qui a bouleversé le monde. C'était vraiment quelque chose qui a transformé la manière de penser, la manière de voir également, mais aussi la manière d'agir par rapport à ce que le monde connaissait jusqu'alors. Dans Matthieu 22, verset 37, Jésus, hein, il insiste sur le fait d'aimer Dieu, n'est-ce pas? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Hein, ce message d'amour, ce commandement d'amour que Jésus, hein, avait déjà donné à ses disciples, hein, de s'aimer les uns les autres, afin que tout le monde puisse savoir que, ah oui, ce sont des disciples de Jésus-Christ parce qu'ils s'aiment. Mais dans Luc 6, 35, il nous dit même d'aimer nos ennemis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent de ce que les gens avaient connu jusqu'alors. Les gens en Israël, ils connaissaient bien. Hein, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Mais alors, aimer les ennemis, ça, c'était quelque chose qui a bouleversé la manière de penser, de voir les choses, de voir les personnes. Aimez vos ennemis, hein, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. C'est-à-dire que, oui, si on dit aimer Dieu et vouloir vivre pour Dieu et refléter Dieu, eh bien Dieu, il est bon, même envers ceux qui ne le méritent pas. Personne d'entre nous ne mérite la bonté de Dieu déjà, mais nous, nous estimons que certaines personnes ne méritent pas du tout la bonté de Dieu. N'est-ce pas? On estime que les personnes méchantes ne devraient pas bénéficier de la bonté de Dieu. Mais la bonté de Dieu, justement, pour les personnes méchantes, c'est qu'il nous aime, il veut nous faire grâce, et que par cela, il veut même montrer au cœur le plus méchant que rien n'est encore joué. Hein, il y a toujours la possibilité, hein, de reconnaître Dieu pour qui il est, hein, et de venir à lui par la repentance. Mais donc cet amour de Dieu, dans tous les aspects de ce qui est essentiellement humain, a eu un impact profond sur les disciples de Jésus et ensuite sur la société de l'époque. Plutôt, hein, que d'aimer Dieu uniquement avec leur cœur, avec leur âme, ce commandement signifiait également que les chrétiens devaient utiliser leur esprit pour aimer Dieu. Et là, ça a conduit de nombreux érudits chrétiens, déjà dès la fin de l'Antiquité, qui sont même encore connus, hein, aujourd'hui, hein, qui ont créé, des lieux d'études, hein, des monastères, des lieux d'apprentissage, de préservation du savoir, hein, des personnes qui ont recopié les évangiles, qui ont recopié, excusez-moi, les épîtres, hein, des apôtres, des centres justement où il y avait des érudits, et cela même a finalement contribué à la création d'universités. Les premières universités, hein, telles que l'université d'Oxford, hein, qui a été créée en 1096 après Jésus-Christ, et même l'université de Paris, hein, en 1200 après Jésus-Christ, étaient le résultat de l'accent mis sur l'érudition, c'est-à-dire la recherche de la connaissance, de l'excellence dans la connaissance et dans le christianisme. Et la plupart, hein, de ces premières, de ces grandes universités, étaient également à l'origine associées au christianisme. C'est-à-dire que le christianisme a apporté cela dans des peuplades où ce n'était pas vraiment leur objectif que de rechercher la connaissance, le savoir. Et donc finalement, même avec plus tard, hein, les réformes protestantes, divers segments du christianisme ont vu la nécessité même de mieux éduquer les masses. Et c'est là où on a vu la création d'écoles. Hein, la création même dans certaines églises, hein, surtout dans les pays anglophones, hein, où on a ces fameux Sunday School, qui à la base, c'était on a des enfants qui ne savent ni lire ni écrire, et on va les enseigner. Et on va les enseigner à apprendre à lire, à écrire, mais en même temps, on va leur parler de Dieu, on va leur parler de Jésus-Christ. Mais ça a aidé aussi beaucoup de pays à sortir de l'illettrisme. Et donc la première, les écoles, hein, qui ont été créées ainsi, hein, ont eu un impact considérable. On a eu des traductions de la Bible qui ont commencé à se multiplier dans la langue des peuples également, parce que avec cela, on avait aussi des églises qui ont compris l'importance de partager l'évangile et même d'envoyer les missionnaires. Et avec ces missionnaires qui sont partis dans divers pays, ils se sont dit, mais il faut qu'on leur donne la parole de Dieu dans leur langue, qu'ils puissent la connaître et qu'ils puissent l'apprendre et qu'ils puissent l'enseigner, n'est-ce pas? Et donc, avec ce renouvellement de l'esprit missionnaire hein, des premiers chrétiens, hein, avec la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, on a eu un impact considérable, non seulement bah, dans nos sociétés occidentales, mais dans d'autres pays à travers le monde, et qui a amené dans beaucoup de pays la possibilité d'apprendre donc à lire, à écrire, de s'instruire. Le message de compassion également de Jésus-Christ était bien différent et extraordinaire pour l'époque. Jésus, il était connu pour sa compassion, hein, ce qui a conduit à nombre de disciples à mettre l'accent aussi sur d'aider les autres, hein, le soin aux pauvres, aux malades. Au Concile de Nicée, par exemple, en 325 après Jésus-Christ, il a été décidé que dans chaque ville dotée d'une cathédrale, hein, un grand lieu de culte, eh bien, il devait également y avoir un hôpital. Et ces hôpitaux, hein, abritaient des logements pour les médecins, pour les infirmières, différents types de patients, et souvent même, on y trouvait des bibliothèques médicales et des écoles de formation. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, il semble même qu'un hôpital avait été établi dans la ville de Gunenchapur, hein, en Iran, hein, par les chrétiens de l'Empire perse sassanide. Et donc, bien que les soins médicaux hein, existaient déjà à l'époque, ce que le christianisme a apporté dans ces différentes sociétés, eh bien, ce sont l'établissement d'institutions, d'hôpitaux où on prenait soin des pauvres, des indigents, des malades, et on transmettait ce savoir pour pouvoir continuer d'aider les gens. L'impact sur la société de l'époque, et même encore aujourd'hui, c'est que la vie et les enseignements de Jésus ont eu un effet profond sur la société. Et en particulier en ce qui concerne l'égalitarisme des êtres humains. Hein, c'est que Jésus-Christ ne voyait pas une personne comme étant plus importante qu'une autre. Et que dans son Église même, on connaît bien ces versets, hein, il n'y a ici non plus hein, ni juif ni grec, hein, il n'y a plus homme ni femme, hein, tous un en Jésus-Christ, c'est quoi ça? C'est l'égalité au sein d'une communauté de personnes, mais ce qui est aussi amené plus tard à des sociétés de comprendre que bah, nous sommes tous égaux et nous devrions tous être égaux en droit. Hein, dans le monde antique, les hommes d'élite de certaines familles étaient généralement considérés comme les plus méritants dans la société, et à mesure que les enseignements de Jésus se sont répandus, ces idées ont été remplacées hein, par des idées égalitaire de la valeur humaine, de la dignité et des droits dans de nombreuses sociétés. Hein, on se rappelle notamment hein, de William Wilberforce hein, en Angleterre, hein, qui était un homme d'État britannique qui a vécu au quoi, 18e, 19e siècle, qui a mené avec succès une campagne pour l'abolition de l'esclavage. Okay? Et c'était un chrétien. Et qui était influencé également hein, par un chrétien, un serviteur, un homme de Dieu, pour l'aider hein, dans cette quête de l'abolition de l'esclavage. On sait qu'au cours de sa vie, Jésus l'avait même inclus hein, dans ses disciples, dans son cercle intime, les femmes. Alors qu'à l'époque, dans la société, les femmes étaient des personnes qui n'étaient pas considérées. Hein, d'ailleurs, on a déjà partagé ça plusieurs fois, le fait que ce soit des femmes qui étaient les premières à voir Jésus-Christ ressuscité. Si les disciples avaient cherché à convaincre les personnes à l'époque, hein, s'ils avaient fait monter de toutes pièces hein, la résurrection de Jésus, si c'était une supercherie, il n'aurait pas été dit ce sont des femmes qui l'ont vu en premier parce que le témoignage des femmes n'était pas considéré comme très important. Mais encore beaucoup moins important que le témoignage d'un homme, par exemple. Mais Jésus, on le voit, aimait chaque être humain de manière égale, peu importe qui ils étaient, si c'était des hommes riches, si c'était même de mauvaises personnes, si c'était des voleurs, même si c'était des femmes de mauvaise vie, des femmes de bonne vie, peu importe. Jésus a aimé et a montré la compassion. Il s'est rapproché hein, des parias, des pauvres, des enfants également. Hein, l'exemple de Jésus a conduit à une vision complètement différente de la valeur des enfants, des femmes, des esclaves, des personnes en handicap. Hein, et ce, par rapport aux sociétés du monde antique, c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire. Et parce que justement, Jésus a montré que chaque être humain est fait à l'image de Dieu, eh bien ses disciples ont compris que tous les êtres humains ont cette même valeur et méritent d'être aimés. On peut parler, oui, de l'influence que Jésus a eue hein, dans l'art, hein, dès la fin de l'Antiquité, dans la Renaissance. Hein, beaucoup de thèmes de sa vie, hein, de son enseignement sont illustrés dans de nombreuses œuvres artistiques. Mais ce que je veux vraiment, encore une fois, noter, c'est l'impact que Jésus a eu. On ne peut pas l'ignorer. Hein. Certains cherchent à ignorer et peuvent ignorer les enseignements de Jésus, mais personne ne peut nier l'impact que Jésus a eu depuis le moment où il a commencé son ministère, encore jusqu'à aujourd'hui. Hein, cet impact énorme, sans précédent, hein, dans l'histoire de l'humanité. Mais ce que je dirais qui fait vraiment la force, hein, de cet impact, c'est que lui-même et ses disciples ont déclaré ceci à son sujet, c'est que Jésus est Dieu. Il est Dieu et il est venu pour nous sauver de nos péchés. Et là, c'est là où vraiment on voit le fait que Dieu s'est révélé dans l'histoire de l'humanité de manière quand même extraordinaire avec la venue de Jésus-Christ. Parce que par rapport à ce qu'il a accompli, l'enseignement qu'il a apporté, l'impact qu'il a eu à son époque et encore aujourd'hui, le fait que il n'a pas caché qui il était. Les gens avaient même bien compris hein, ce qu'il déclarait être. Mais comme on le voit dans l'évangile de Jean, hein, Jésus, oui, il a fait encore beaucoup d'autres choses. Hein, et si on les écrivait en détail, on ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait sur ce qu'il a accompli. Et je crois que même aujourd'hui, hein, quand on voit la quantité d'ouvrages qui existent sur la personne de Jésus-Christ, hein, tous ces commentaires bibliques et ces livres de théologie qui existent par rapport à Jésus-Christ, c'est un impact extraordinaire. Donc oui, pour cette fois-ci, je voulais vraiment montrer cet aspect-là de la révélation de Dieu à travers Jésus-Christ, parce que c'est un impact considérable sur l'histoire de l'humanité. Et Dieu voulant, on va voir la prochaine fois que Jésus, il est aussi une révélation spéciale. Parce que si vous connaissez bien oui, l'évangile de Jean, le premier chapitre, il est question de Jésus-Christ, il est question de sa divinité, il est question qu'il est la parole. Et que la parole hein, a été faite chair et elle est venue hein, parmi nous, elle a vécu parmi nous. Et ça, c'est quelque chose là aussi de spécial. Et ce qu'on verra donc dans la prochaine section hein, de notre étude, cette révélation spéciale de Dieu à l'humanité à travers Jésus-Christ et aussi à travers sa parole. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que l'on a vu ce soir? Des commentaires sinon. Bien, alors je vais demander à Philippe de conclure ce temps de ce soir ensemble et donc nous ponctuerons notre réunion également par la même occasion.